Bon, comme je veux parler de la coexistence du russe et du français au premier du 19e siècle, en posant la question qu'est-ce que c'est le balinguisme ou la diglossie, alors il faut que je commence probablement par l'explication comment je comprends cette opposition, le balinguisme et la diglossie. Alors, si le balinguisme c'est la coexistence des langues égales et équivalentes dans leur fonctionnement, la diglossie, à mon avis, c'est le moyen de coexistence des langages dans une collectivité quand les fonctions de ces langages sont réparties pour les différents domaines. Alors, il est indéniable, le balinguisme règne dans la société éclairée russe du premier tiers du 19e siècle. On utilise aussi bien le russe que le français et on choisit la langue spontanément. Très souvent, c'est le français qui prédomine, on a l'intention de parler ou écrire en russe, mais tout naturellement, on recourt au français. On connaît bien et on cite souvent cette phrase très significative de la lettre d'Alexandre Karamzine adressée à son frère qu'il avait commencé en français, mais puis s'est repris. «Я опять забыл тебе писать по-русски, как хотел сперва. Право стыдно, что когда забудется, то всегда мысли надевают французский язык». Cet énoncé même suit le modèle français comme nous voyons, bien qu'il soit fait en russe. Ça provient probablement de s'égarer dans ses pensées, les pensées s'égarent. Muslim Divaï au francouzski yzyk, habiller sa pensée de mots, habiller sa pensée en vers. Ici, nous avons habillé sa pensée en français. L'apparition du gallicisme dans le texte russe est un des témoignages du balinguisme, disons, bien présent. Mais ce qui est encore plus amusant, dirais-je, c'est la fusion des règles grammaticales des deux langues. On en trouve des exemples très intéressants, à mon avis, dans la correspondance d'Antoni Pogaïski. Il écrit des lettres en français à son frère au sujet de leur procès avec Warhoff sur une succession. Et dans ces lettres françaises, on trouve ça et là plusieurs interpolations russes. Les réalités de la vie russe sont nommées dans la langue du pays, ce qui est logique, mais ce qui est curieux, c'est la stricte observation des règles de la grammaire française appliquées au nom russe. Par exemple, il écrit « Des gens qui n'ont pas le moyen de payer ou d'effrayer le gubernское правление de Tchernigov ne peuvent jamais gagner leur cause, quelque sainte et juste qu'elle puisse être. Imaginez-vous que la cheville sur laquelle tourne tout le procès, c'est de savoir si le Chvirsky Hut se trouve dans le Sassnitsky Uyezd ou dans le Novgorod-Siversk. L'acte de vente du Hut fait et enregistré à Sassnitz et dans lequel il est normalement dit qu'il est de cet Uyezd. Nous voyons que devant les noms des administrations publiques russes, on utilise l'article du genre conforme. Devant le nom masculin Hut, masculin en russe, on met l'article contracté masculin du. Devant le nom masculin qui commence par la voyelle Uyezd, il emploie l'adjectif démonstratif masculin 7 avec le seul T pour Makokopé. Parfois, peut-être, la forme grammaticale russe peut triompher. Il écrit « Le gubernское правление annule ce следствие et fait demande au gubernski землемер dans quel district le route, au lieu de dans quel district elle. » Encore un trait qui illustre bien la situation balinguistique, c'est la possibilité de jouer sur les mots en mélangeant les deux langues. Voilà, dans le cercle amical de Pouchkine et Gazinski, on se servait du mot « encourager ». C'est qu'on participe passé, « encourager ». D'après les mémoires de Gazinski, ce mot provient d'un employé de la direction théâtrale de Moscou qui aspirait plus que tout à obtenir une décoration et écrivait dans ses plusieurs demandes. « Я не прошу кавалерии через плечо или на шею, а только маленького encourager. » Et c'est écrit en russe. Malinkova encouragé в петличку. Ce mot employé ici comme substantif, d'après Gazinski, a beaucoup plu à Pouchkine qui l'utilisait en parlant des histoires d'amourettes, des histoires d'alcôve. Et voilà, Pouchkine écrit dans une de ses lettres à Gazinski, c'est l'année 1829, «Baratinsky у меня. Я еду часа через три. Обеда не дождусь. А будет у нас завтрак. Вроде en petit courage». Nous voyons qu'il transforme le substantif et il fait une locution. Il écrit plus loin. Постарайся напиться не en grand cordonnier, как сапожник, а так, чтобы быть en petit courage, под courage. Приезжай, мой ангел. Alors la locution en petit courage n'existe pas comme telle. mais elle semble être authentique. Nous avons ici, à ce qu'il paraît, la contamination voilà, du verbe encourager et de la locution française à bon courage. Et le sens de cette locution est parfaitement clair grâce à ce qu'elle est faite dans le contexte de la lettre par analogie avec un grand cordonnier. Un grand cordonnier ne dit rien au français, comme il n'y a pas d'expression avec le mot cordonnier ayant le sens se saouler, devenir ivre. Mais pour les Russes, c'est significatif. En russe, on dit «Napitsa karsapon», s'enivrer comme un cordonnier. Et ce qui est fort remarquable, c'est que voilà, j'ai pu trouver un exemple de calembour apparu pratiquement accidentellement. Alors, il s'agit ici, je pense, précisément du pur balavisme, parce qu'on confond les deux langues en oubliant dans laquelle cette tournure existe initialement. Voilà ce qui est écrit dans le rapport d'un employé de l'agence secrète sur Pouchkine. On attribue ce rapport à Bulgarine. Alors, il est écrit « Пушкин пробудет, как уверяют его здешние друзья, несколько времени в Москве. И как он из тех людей, qui tournent au gré de leur allumette, то, может быть, или вовсе останется в Москве, или прикатит сюда-назад. Alors, tourner au gré de son allumette. On ne trouve pas cet idiome en français. Probablement, c'est l'expression russe, ou plutôt le verbe de la langue parlée russe, qui est sous-entendu, «приспичит», как «приспичит». L'expression est réalisée en français, et elle est contaminée avec l'idiome française, tourner à tout vent, tourner au moindre vent, changer sans cesse son avis. Mais c'est non seulement le balinguisme qui existe, la diglossie aussi existe de plein droit. Il existe des situations où le français, qui est de rigueur, il sert de signe d'appartenance à la noblesse et son emploi est prescrit par l'étiquette. Nous savons bien, c'est par exemple quand on doit s'entretenir ou correspondre avec les dames. Et notons que l'utilisation du russe et ou du français n'était pas la même dans la société féminine et masculine, ce que voilà, Catherine Violet a marqué aujourd'hui déjà. L'académicien Vinogradov en a parlé, il parle de la langue de la dame du monde et Irina Papirna a argumenté les causes de cette différence. Le russe étant tout de même la langue maternelle, voilà son usage est plus libre et les hommes qui sont plus indépendants l'utilisent plus souvent tandis que le français prescrit par l'étiquette reste à la disposition des dames dont la condition est beaucoup plus limitée. Les femmes n'avaient pas absolument la même liberté que les hommes. Вяземский, par exemple, écrivait à sa femme « Во-первых, я муж, а ты жена. Следовательно, мне все можно, а тебе почти ничего. » C'est une plaisanterie, mais qui est très proche de la réalité. Voilà ce que Жуковский a écrit à Воякова. « Девочкам нужны только языки, да некоторые таланты. » Cette lettre de Жуковский, elle est écrite en russe, et elle présente un tableau assez détaillé sur la différence entre l'éducation des filles et des garçons. Il écrit « Ему, мужчине, нужна слава. Девочкам мысль об успехе – яд. Их добродетель должна быть тайной сердца, знакомую другим, но невидимую. Ничто так не пленяет женщине, как это покорное самоотвержение. » Et Жуковский, qui n'écrivait en français que très rarement, du coup choisit le français. Il continue « Ces vertus mêmes, ces grâces, ces succès doivent être une résignation. Se résigner est le sort d'une femme, surmonter est celui de l'homme. Ainsi soit-il. » À ce qu'il paraît, l'idée de la destinée de femme de la noble société est si intimement liée à l'idée de la langue française qu'en parlant de ces femmes, Joukowski recourt au français spontanément. L'usage du français imposé par le code devient tellement habituel, quelque chose de commun, que peu à peu, ces dames sont plus à l'aise en parlant et écrivant en français. Le français était bien utile, on comprend ça, parce qu'il fournissait tout un assortiment de clichés communicatifs. On connaît bien cette énoncé de Pushkin. « Леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы уже готовы и всем известны. » On trouve plusieurs exemples de cette préférence du français dans la correspondance de l'époque. Dans une des lettres russes de Вяземский à sa femme, il y a le post-scriptum de Екатерина Николаевна Карамзина. Вяземский termine sa lettre par les mots « Все здешние тебе кланяются ». Карамзина reprend cette phrase et commence son ajout en russe. « А я здешняя, хочу сама вам кланяться ». Mais c'est tout, elle ne continue pas le texte russe, elle le poursuit en français. on va en Kouane et vous féliciter, chère et bonne tante, etc., etc. Et tout ce post-scriptum assez long est fait en français. Alors il faut se conformer aux règles, c'est la diglossie, mais en même temps, probablement c'est plus facile, et ça c'est le balinisme. Vera Fyodorovna Vyazemskaya, la femme du comte Vyazemskaya, dans une de ses lettres françaises, et elle écrivait à son mari toujours en français, tandis qu'il lui répondait en russe. En réponse à sa réplique russe, semble reprendre son texte russe, mais tout de suite passe au français. « Tu me dis, расплатись с Пушкиным как следует. А как следует? Ni lui ni moi, nous n'en savons rien. » On dirait qu'ayant commencé à écrire en russe, elle aurait pu bel et bien continuer ainsi, mais non, sans aucun doute, elle est plus à l'aise en écrivant en français. Évidemment, les hommes parlaient aussi français, suivant l'étiquette, ils s'adressaient aux dames, ils utilisaient cette langue dans leurs lettres, mais entre eux, en amis, en petits comités, ils écrivaient souvent en russe. Et je pense qu'on peut supposer qu'ils parlaient russe. Ils prenaient des libertés, en jouant sur les mots, en mélangeant des styles, et même en utilisant des paroles obscènes, ce qui était inouï pour les dames. Pushkin, Vyazemskiy, Savalevsky, Pogarevsky, Griboïdov et beaucoup d'autres hommes de lettres russes écrivaient des lettres russes à leurs amis hommes. Pour la plupart des représentants de la société instruite masculine, cette situation franco-russe présentait le système binaire. Bien que la plupart des bilingues russes, à ce qu'il paraît, ne sussent expliquer le choix de la langue, il y avait ceux qui reconnaissaient la nécessité de la coexistence de deux langues et pensaient au domaine de leur application. Et voilà ceux qui ne se contentaient pas de clichés, ou poncifs, et en français on trouvait tout cela déjà prêt, ils faisaient bien la distinction entre ces deux langues et on comprend que bien évidemment il y a des cas où les langues ne peuvent pas se substituer si l'on veut appuyer les nuances. Et voilà, on en trouve des exemples dans les lettres de Griboïedov. Il écrit à Madame Akhvertova en français, comme l'exige l'étiquette, mais parfois, il lui arrive de violer les règles parce que, à ce qu'il paraît, ses ressources du français semblent n'être pas suffisantes. Voilà, dans une de ses lettres de Nechitchivay, c'est une lettre tout à fait une plainte. Il se plaint que les lettres ne lui parviennent pas, plus encore des chaleurs suffocantes, à 47 de Réaumur, mauvaise chère, pas de lecture, pas de piano, et tout ça est exposé en français. Mais la phrase exprimant, disons, l'essence de son humeur, il ne la trouve pas en français, il lui faut le russe, et il termine, il écrit en résumé, « Toshno dosmerti ». Dans une autre lettre à cette même correspondante, encore une interpolation russe témoignant qu'on ne peut pas tout exprimer en toute langue. Il écrit « Cette respectable infirmité me saisit l'âme. Et entre parenthèses, ni infirmité, а благородные изувечины. Как это сказать? Cette situation, les recherches du mot nécessaire dans l'autre langue, c'est le problème de la langue. Si l'on maîtrise une seule langue, on y va trouver tout pour exprimer sa pensée. On n'a rien à faire. On n'a pas d'autres moyens supplémentaires. Mais quand on a deux langues dans sa disposition, on commence à hésiter entre eux, en cherchant un équivalent plus juste, plus exact, plus précis. Dans ce contexte bilingue, le russe allait mieux pour exprimer les choses plus intimes, et c'est pourquoi il prévalait dans les contacts amicaux, et c'est pour cette raison que Pushkin et Vyazemskiy écrivaient des lettres russes à leurs femmes. Nous ne savons pas quelle langue utilisait Natalia Mikhailovna Pushkina, dans ses réponses à son mari, sa correspondance ne nous est pas parvenue, mais la femme de Vyazemskiy, Vera Fyodorovna, utilisait rigoureusement le français. Et ce fait que le français surpassait le russe dans la société féminine ne signifie pas que les dames le maîtrisaient mieux que les hommes. Vyazemskiy, qui écrivait à sa femme toujours en russe, lui apprenait tout de même les règles de l'étiquette épistolaire française. Voilà, par exemple, il lui écrit Madame la princesse, не учтиво. Madame tout court, пишется и к царицам. L'altesse, нужно непременно, тем более, что принадлежит ей по праву. Il lui arrive aussi de corriger son français. En 1824, il lui écrit, а в самом деле, надобно тебе приняться за грамоту, пора. Ты уж такие отпускаешь со мной выходки, что ужас. Ты пишешь мне, que le chapeau s'étire, et il met plusieurs points d'exclamation sur la tête. Господи Иисусе Христе, это что такое? Вера Федоровна pourtant proteste. Si la phrase «le chapeau s'étire» te paraît ridicule, Je la tiens de Monsieur Beauvais, négociant français, qui me l'a faite ainsi. Et dans ce cas, c'est Gertrude qui est dans le vrai. Elle apprend le français vivant, tandis que son mari a l'affaire en matière plutôt métaphysique. Il ne nous est parvenu de la correspondance de Griboïedov avec sa femme qu'une seule lettre. Et comme celle de Pouchkine et Lesinski, elle est écrite en russe. Il existe encore un signe graphique, si l'on peut dire ainsi, de cette courte période de l'union de Griboïedov et Nina Tcherazé, qui s'est rompue si tragiquement, c'est l'inscription sur l'écritoire envoyée en cadeau de Téhéran. Et ce qui surprend, c'est tout d'abord ce que cette inscription soit faite en français, si on se rappelle que le russe était plus intime, il l'a employé dans sa lettre, et plus est, cette inscription contient des fautes absurdes. Alors il est écrit, « Écrive-me le bien-ange Ninobi ». Ninobi, c'est le diminutif géorgien pour Nina. Tout le tien à Alexandre Griboïedov est la date, le 15 janvier 1829 Téhéran. Alors on ne peut pas parler des fautes échappées à la plume parce que l'inscription est gravée et si on présente le texte au graveur, on doit écrire le texte avec soin bien sûr. Et ce qui est incroyable, c'est que ces fautes puissent être commises par Griboïedov dont le français était parfait, qui composait des dépêches diplomatiques en cette langue. Alors il y a eu l'explication la plus vraisemblable, les fautes sont faites sciemment. Il y a eu quelque chose connu et compréhensible pour les deux. Peut-être c'est des fautes commises par Nina, par exemple. Nous n'en savons et nous n'en saurons jamais rien. Mais cet exemple, qui peut sembler insignifiant, c'est tout de même une des illustrations du vaste tableau très varié de la situation balade de la Russie. Et en résumé, je veux dire que l'exemple donné, et comme vous comprenez, il y en a beaucoup d'autres, témoigne de la diversité des aspects du fonctionnement des deux langues. Et par exemple, voilà la correspondance officielle, les documents, les lettres qui étaient écrites au tsar russe, c'est aussi tout un problème encore. Alors il y a beaucoup d'aspects. Mais tout de même, on peut observer une certaine régularité, comme je pense. Pour la plupart des représentants de la société instruite masculine, la situation franco-russe présentait le système binaire basé sur le bilinguisme. Les deux langues étaient équivalentes pour la communication. Mais quand on appréciait les nuances de la situation de la coexistence des deux langues, on voit plutôt la diglossie. Et pour les femmes, vice-versa. C'est la diglossie que nous constatons. On apprenait aux jeunes demoiselles les bonnes manières, y compris l'usage obligatoire du français, à quoi elles s'appliquaient soigneusement. Mais ensuite, on voit plutôt l'expression du bilinguisme. Les deux langues sont perçues comme les deux éléments de la seule, d'où la confusion de deux langues et la préférence fréquente du français, qui est plus naturelle pour les relations mondaines. Et il faut noter que l'opinion répandue que les femmes russes ne savaient pas leur langue natale, qui est surtout basée sur la citation de Jean Onegin de Pouchkine sur son héroïne Tatiana. Oui, il a dit que «Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном». Alors, voilà, cette opinion semble être exagérée. La correspondance des dames, que j'ai lue, prouve qu'elles savaient le russe. Et leur russe était correct, mais elles ne voulaient pas l'employer. Merci pour votre attention.